Les enfants et la mode.
Être et savoir. Louise Touret.
Dès le départ, choisir les vêtements, body, pyjama, bloomer, gilet, pratique, joli, pas cher, sélectionner avec soin ou récupérer, puis très vite il faut s'occuper de racheter, donner, jeter, garder pour d'autres au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et puis un jour arrive un refus, une demande, il ou elle veut choisir ses vêtements. C'est le début d'une grande ou petite histoire, celle que chaque individu entretient avec sa manière de s'habiller, de se présenter aux autres, d'y faire attention ou de n'en avoir rien à faire, de suivre ou de se défier des modes. On en parle au moment même où se déroule à Paris une Fashion Week. C'est la première fois que je fais une émission en rapport avec la Fashion Week. Mais faut-il dire aux enfants que l'habit fait l'homme, pour citer Erasme, ou penser avec le poète Henri Michaux que l'habillement d'un peuple en dit beaucoup plus long sur lui que sa poésie et que l'habillement est une conception du monde qu'on porte sur soi. Au contraire, faudrait-il mettre en garde nos enfants contre une mode qui fait des victimes et que ces victimes sont surtout celles qui fabriquent les vêtements à bas coût et l'environnement, puisqu'on ne peut plus ignorer que l'industrie du textile est une des plus polluantes. Nos invités, spécialistes de la mode, journalistes et historiens, se sont tous interrogés sur la meilleure manière d'aborder toutes ces questions en s'adressant aux enfants, aux adolescents et aux parents. Il aimait s'habiller tout en noir et prendre des airs mystérieux. L'écrivain Olivier Adam a confié ses souvenirs d'une adolescence ombrageuse passée en banlieue. Il les a confiés à Sophie Bobert et c'est la leçon de choses. En fin d'émission, cette émission qui est pensée et préparée en collaboration avec Avril Ventura et réalisée par Philippe Baudouin. Morgane Danin est à la prise de son aujourd'hui. Et puis on remercie aussi notre stagiaire Mostefa Mostefaoui. Alors on prend très très rarement des stagiaires dans Être et Savoir. Et Mostefa, vous avez participé à un programme spécifique. Il est mené par une association, La Chance. Et je voulais vous en faire dire quelques mots aujourd'hui. La Chance qui vous a amené jusqu'à moi, qu'est-ce que c'est ?
La Chance, c'est une association de journalistes dans toute la France. Et elle participe à inclure de la diversité dans les médias. Donc dans toute la France, l'association sélectionne 80 apprentis journalistes et toutes les semaines, du coup, on fait des tests d'actualité, on rencontre des journalistes qui nous expliquent leur métier et c'est très enrichissant. Généralement, on ressort de La Chance avec une expérience et un background assez intéressant pour la suite.
Et le but, c'est de se présenter aux écoles de journalisme?
Exactement, se présenter aux écoles de journalisme, ça fonctionne pas toujours, mais avec La Chance, ce qui est intéressant, c'est que même si on ne réussit pas les concours, c'est pas une fin en soi. Le tout, c'est de rebondir et La Chance est là pour nous aider, nous accompagner. C'est un gros réseau de journalistes.
Et tous les journalistes n'ont pas fait d'école. En tout cas, bonne continuation à vous, Mostefa. Et encore merci pour l'aide que vous nous avez apportée sur ces émissions de janvier et de février. Je salue les invités de ce numéro, donc consacré à la mode. Jennifer Thiot, bonjour.
Bonjour.
Ancienne chargée de mission pour le design et la mode au ministère de la Culture et autrice d'un livre que nous avons trouvé formidable avec Avril Ventura, Tous pareils, mode et liberté. Il a été publié chez Gallimard Jeunesse en 2019. Nicolas Coutan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, directeur adjoint du MUNAE. Le MUNAE, c'est le Musée National de l'Éducation. Il est à Rouen et vous préparez, mais alors c'est pas pour tout de suite, une exposition sur le vêtement enfantin, c'est pour...
Pour 2022, une exposition sur le vêtement et l'école.
Et vous travaillez donc déjà sur ces questions en 2020.
C'est ça, oui, on s'y prend très à l'avance.
Bon, c'est intéressant aussi de le savoir, c'est bien préparé au MUNAE. Solène Chardronnet-Séton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Monde des Ados et autrice principale d'une autre revue, Ramdam. Dans le Monde des Ados, on parle souvent de la manière dont on s'habille. Il y a des rubriques, il y a aussi des dossiers.
Les ados, c'est une des questions de leur cours de récréation, à mon avis. L'image de soi et le rapport aux autres et la mode est au cœur de cette question.
La mode et les vêtements, on va essayer de se demander d'ailleurs si c'est la même chose. Sophie Lemaillot, bonjour.
Bonjour.
Historienne de la mode et enseignante en histoire de la mode à l'école du Louvre. Vous êtes aussi une des co-autrices de l'histoire des modes et du vêtement dirigée par Denis Brunat et Chloé Demey. C'est publié chez Textuel. C'est un gros et très bel ouvrage. L'histoire du vêtement pour enfants, elle a été faite, mais beaucoup moins que celle du vêtement pour adultes. Et dans cette histoire, tournant, c'est le XXe siècle et même la deuxième moitié du XXe siècle avec l'invention, l'avènement plutôt de l'adolescence et une manière spécifique de s'habiller qui va diffuser dans les âges plus jeunes au fur et à mesure. Sophie Lemaillot.
Oui, tout à fait. On peut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une vraie rupture et toutes les générations qui vont arriver après vont avoir besoin de se mettre en opposition, notamment par le vêtement, avec leurs parents. Et donc on va avoir à partir des années 50 et des années 60 des jeunes qui ne vont plus s'habiller comme leur père et comme leur mère et qui vont ainsi marquer leurs différences et leurs nouvelles envies.
À quel moment cela arrive-t-il ? Aux enfants ou aux adolescents plus jeunes, on pense aux cours d'école élémentaire, on n'est pas encore vraiment adolescent et pourtant déjà là il y a des codes, des manières de s'habiller qui diffèrent de celles des adultes et qui veulent marquer la différence.
Oui, alors bon, ça dépend vraiment de l'âge qu'on prend. Souvent, on dit que c'est environ vers 6 ans qu'on va commencer à donner un avis sur ses vêtements et à en préférer certains, à demander certaines choses. Ensuite, dans ces cas-là, on va avoir envie de codes de l'enfance, justement, sans doute, qui sont souvent très, très, très genrés, du type les princesses, Spider-Man, etc. Après, à l'adolescence, on a autre chose qui va arriver, souvent effectivement dans la cour de collège, qui va être de vouloir former un groupe avec les autres adolescents, de vouloir être comme tous les autres, justement, sans doute se fondre dans la masse. Et en même temps, se démarquer des parents aussi, c'est quelque chose qui reste et qui persiste.
Se distinguer et en même temps appartenir à un groupe. Voilà deux principes très forts qui dirigent un petit peu les manières de choisir ses vêtements et de s'habiller pour ceux pour qui ça a une importance. Vous avez parlé de l'après-guerre. Les années 50 aux États-Unis, c'est le docteur Spock et puis d'autres pédiatres viendront parler des enfants comme des personnes. Évidemment, en France, on pense plus tard à Françoise Dolto. Est-ce que c'est cet avènement de l'individu et de l'enfant comme individu qui marque le début aussi d'une prise en considération plus grande de l'habillement des plus jeunes. Jennifer Thiot.
Oui, certainement. Il faut que on considère l'enfant comme un individu avec un statut social, avec des goûts particuliers, avec une façon de vivre particulière pour qu'on lui assigne un vêtement, une mode particulière. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'enfant est autorisé à se distinguer, mais l'adulte, le parent derrière, se distingue aussi par son enfant. C'est aussi peut-être un autre niveau de distinction qu'il est intéressant d'observer à ce moment-là.
C'est extrêmement fort. D'après les sociologues, on se permettra de citer Bernard Lahire qu'on avait reçu dans cette émission et on en avait parlé. Évidemment qu'il y a un enjeu pour les parents à présenter un enfant plus ou moins bien habillé, un enjeu aussi de classe sociale, montrer à quel groupe on pense appartenir, on voudrait appartenir ou auquel on appartient réellement. Et puis l'espace pour lequel on habille son enfant, en tout cas depuis qu'il n'y a plus la blouse, on reparlera de l'uniforme plus tard, c'est l'école, Nicolas Coutant.
Oui, l'école, effectivement, c'est un lieu important pour le vêtement. C'est un lieu qui peut-être a une relation un peu particulière avec le vêtement, dans la mesure où le vêtement comme sujet peut être considéré comme un peu futile, finalement, dans un lieu où on est là pour apprendre, pour faire grandir son esprit. Et pourtant, le vêtement, c'est un enjeu entre enfants, entre pères. C'est un enjeu aussi entre l'enfant et l'institution, puisque l'institution scolaire édicte des règles, qui sont d'ailleurs pas toujours très...
Alors, ces règles, c'est celles de l'institution scolaire en général, ou ce sont celles, justement, au pluriel, des établissements?
Alors,
Alors, par leur règlement.
Ouais, ce qu'on apprend, en fait, ce qu'on découvre, notamment à travers les collections du Musée national de l'éducation, c'est que, à la lecture des règlements scolaires, à la lecture des règlements d'établissement, on voit, en fait, apparaître des réalités assez variables suivant les écoles, suivant les collèges et les lycées. Il y a des constantes, notamment la question de la décence, la question de la propreté, mais il y a des interdits plus spécifiques en fonction des établissements, tout à fait.
Par exemple ?
Par exemple, le port de tel ou tel couvre-chef, ou la hauteur de tel ou tel pantalon.
Voilà. Mais la presse
régionale s'en fait régulièrement l'écho. Voilà, ou de la jupe, tout à fait.
Les baguilles qui descendaient trop.
Presse régionale s'en fait régulièrement l'écho. Et d'ailleurs, vous avez raison de le signaler, c'est plus souvent une contrainte qui pèse sur le corps des filles que sur celui des garçons.
Solène Chardonnet, c'est toi.
Bah, c'est vrai que on a déjà eu ce type de réaction de jeunes qui disaient je ne peux plus mettre un short ou une jupe trop courte, alors que la question se pose pas pour les garçons.
Un petit peu avec le pantalon taille basse, ça s'est posé. Mais c'est effectivement plus rare.
Et ce sont des règlements à la discrétion en fait du chef d'établissement. Est-ce que parfois justement les parents aussi participent à ces règlements? Est-ce que ça donne lieu à des débats? On dit que la presse s'en fait écho.
Je sais pas si ça si les parents y participent, en tout cas, l'école, c'est un lieu de, enfin, le vêtement à l'école, c'est un lieu de tension entre l'enfant et l'institution, et l'enfant et sa famille, et entre la famille et l'institution. C'est un triangle.
La tension qui règne autour de l'apparence de l'enfant, qui est bien aussi la marque pour lui de son individualité, de sa singularité, de sa personnalité peut-être. Tous les sujets dont vous parlez, Jennifer Cho, dans le livre. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est qu'il est bourré de références. Page 12, c'est parce que ça se percute un petit peu. Vous parlez du sociologue Gabriel Tarde, mais aussi de Rihanna et de Kendall Jenner, de Usain Bolt, et puis sur la page d'après, Adam Smith. C'est assez pratique parce que en fait, tous ces noms sont surlignés. C'est important parce que vous vous adressez à des adolescents, on peut dire, avec ce livre. Je pense à partir de 10 ans, peut-être un peu plus tard. C'est important de donner comme ça un historique et puis de dire que cet univers de la mode, il est pensé pour vous et être spécialiste.
Tout à fait. Et vous citiez Gabriel Tarde. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers sociologues modernes, finalement, de notre époque. Il était contemporain de Durkheim. Et Gabriel Tarde, il a expliqué les tensions et ce qui traverse nos sociétés grâce à cette tension qu'on retrouve dans le vêtement entre imitation et envie de se distinguer. Et j'avais envie, à travers ce livre, de dire aussi aux adolescents que les questions qu'ils peuvent se poser, ce sont des questions intéressantes qui ne concernent pas que leur rapport à leur corps ou à eux-mêmes, mais qu'elles ont intéressé aussi des sociologues et des penseurs depuis presque, on peut dire, l'Antiquité, finalement.
Et qu'elles nous travaillent de manière très personnelle, c'est ce que vous disiez, Solène Chardonnet-Seton. Donc ça, c'est ce que vous disent les adolescents. Et puis, il y a une autre question qui est soulevée aussi dans le livre « Tous pareils, mode et liberté » de Jennifer Cho. C'est la question de la consommation qui interroge aussi, en tout cas, vous la portez, cette interrogation, dans les pages du magazine, parce que c'est une question très contemporaine aussi.
Oui, c'est vrai que je trouve que depuis quelque temps, les jeunes regarde la mode par ce biais-là, en se disant acheter, toujours acheter. Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de s'habiller, en consommant moins? C'est aussi une question écologique. C'est pas, je pense. Jusqu'ici, il y avait peut-être que la question du portefeuille. Voilà, j'ai pas trop de sous. Suivre la mode, ça coûte cher, ils nous le disent. Mais je trouve que de plus en plus, il y a aussi la question de l'écologie. Voilà.
Puis la question de la consommation, elle peut être vue positivement à travers les marques, parce que on pense à Baudrillard ou à Pérec. Bon, ils sont un peu plus vieux, mais les héros de Pérec des choses. Mais le fait de s'approprier des marques qui disent aussi un peu notre identité, Solène Chardonnet.
Oui, là, ça m'amuse. J'ai envoyé donc un petit message aux reporters du Monde des Ados. Au Monde des Ados, on a des jeunes qui sont lecteurs et qui sont des lecteurs un peu favoris. Ils sont nos reporters et et je leur ai dit qu'on participait à cette émission. Et alors, il y a Roman qui a 11 ans et qui me dit donc j'ai choisi de m'acheter un nouveau sac, un sac Eastpak et puis des baskets. Et donc ce sont des objets de marque et c'est de bonne qualité. Alors c'est agréable à porter. Et alors je vais poser la question, mais est-ce que c'est pourquoi c'est agréable? Il me dit, je me sens mieux avec ces nouveaux sacs et baskets, mais juste au niveau du confort. Et ça, c'est intéressant de voir que, bon, ils avancent cette question du confort, peut-être sans soulever la question du regard à l'autre. Bon, et Roman a 11 ans. Et je pense qu'à 11 ans, on en est encore à ce niveau de réflexion. Mais très vite, à 13, 14 ans, la question du regard à l'autre intervient.
Avec une marque de sac que vous avez citée, qui est extrêmement hégémonique si on regarde ce que portent sur le dos les collégiens, par exemple, et même un petit peu avant à l'école élémentaire, tout le monde a à peu près le même sac. Il n'y a que les couleurs qui diffèrent. Mais où est la créativité? Parce qu'on dit se définir soi et on parle, d'ailleurs on va peut-être y revenir, il y a des concours aussi de mode qui sont organisés, par exemple par le magazine Ramdam, c'est ça Solène
Non,
Chardonnay.
Alors là on parle de Sorcière.
Sorcière.
Sorcière, donc un autre magazine de Fleurus Press. Sorcière pour les 8-12 ans et chaque été organise un concours de stylisme et on reçoit entre 700 et 900 réponses. Donc les petites jeunes filles réalisent un petit modèle et le but c'est pas de copier les magazines, voilà, les modèles des magazines, mais vraiment d'inventer, de mettre leur créativité. Voilà, donc ça a beaucoup de succès.
Alors l'idée c'est la créativité et l'expression de soi, mais où est-elle quand on a l'impression, mais peut-être que c'est qu'une impression d'adulte, que les enfants ont surtout envie de s'habiller pareil, Sophie Lemayeux?
La créativité, ça, tout va dépendre de l'enfant ensuite et de l'adolescent. On a parlé du fait de vouloir se fondre dans la masse. On a quand même aussi des adolescents qui, eux, à l'inverse, vont vouloir se mettre en marge et vont trouver les moyens vestimentaires de le faire pour le signifier au plus grand nombre et de la manière la plus visible possible. Après, on est là dans un monde où on a une variété et des choix possibles qui sont infinis et qui vont malgré tout permettre une certaine créativité.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes.
Coucou les filles!
Coucou Christina!
Vous allez adorer le thème que j'ai choisi pour vous, hein, car je suis sûre que vous utilisez énormément. Votre thème de cette semaine est tendance avec une jupe en jean.
Oh! Ah, et loin derrière, bah c'est pas dans le thème. On se doit d'être tendance cette semaine. On l'est pas là, Christina? Vous en pensez quoi de ce look?
J'aime beaucoup le haut, c'est super tendance en ce moment, c'est l'imprimé foulard. Mais c'est pas une couleur qui lui va autant.
Et la jupe?
La jupe lui va bien, mais avec le haut, je trouve que ça fait trop simple. Ça marche pas très bien. Il aurait fallu une jupe peut-être un peu plus foncée pour donner un peu plus de matière. Là, c'est trop clair. La jupe, elle est bien. Le haut, il est bien. Mais les deux ensemble, ça fait pas tendance.
Ça fait pas tendance pour Christina Cordula. C'est pas magnifique. Elle est évidemment très connue, Christina Cordula, pour cette expression que tous les enfants absolument connaissent et avec laquelle ils blaguent. Alors, son émission actuellement, c'est Les Reines du Shopping. Elle est diffusée à 17h40 tous les jours sur M6, 17h40. C'est une bonne heure hein, quand on est un enfant seul et qu'on peut regarder la télé. Et c'est un peu aussi à ce public d'enfants qu'elle s'adresse. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jennifer Thieu ?
Alors, je trouve que ce qui est intéressant finalement dans ces émissions de relooking, c'est que non seulement la personne à la fin de l'émission, en général, est bien habillée, on peut le dire, mais en plus, elle se sent bien, elle se sent mieux, elle se sent prête à affronter le monde. Donc, il y a eu quand même une transformation au plus profond de son être qui dépasse largement la couleur de la chemise ou la longueur du pantalon. Et c'est là qu'on voit que le vêtement n'est pas si superficiel, il est une forme de seconde peau. Et parfois, il nous accompagne dans les épreuves de la vie. Il nous aide à être des personnes plus fortes. Ça me fait penser aux contes de fées, où en général, les petits héros des contes de fées ont des accessoires de mode, des grandes bottes, une peau d'âne, qui les aident à avancer et à surmonter les obstacles.
Ces participantes sont quand même beaucoup évaluées et notées aussi sur leur look, sur la pertinence de leur choix, avec aussi parfois des jugements très très durs, à savoir que pas avoir une bonne apparence, c'est un peu l'envers de ce que vous disiez, Jennifer Thieu, ce serait très grave. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de normatif? Est-ce que on vous en parle de cet aspect normatif du côté des ados, Solène Chardonnay-Séton?
Exactement, oui. En fait, là, j'ai la réaction de Émilie qui dit ça nous enferme dans des codes déjà écrits. Et si on choisit de les ignorer, eh ben les tenues sont regardées et sont critiquées. Et il y a Gabrielle qui dit aussi « Je veux être comme tout le monde, ça me rassure. » Et il ne faut pas paraître étrange ou bizarre aux yeux des autres.
Oui, toujours le même désir de se fondre dans la masse. Et c'est un peu ce qu'on nous propose clé en main avec ces émissions de télévision qui centralisent l'idée que l'image de soi est hyper importante. Alors souvent, c'est quand même des femmes hein, qui participent avec aussi une injonction à la féminité. Sophie Lemayeux.
Oui, juste pour revenir sur cette histoire de normes, c'est quelque chose qu'historiquement, on retrouve beaucoup de toute façon dans l'histoire de la mode et où pour les adultes aussi, on va avoir des lois somptuaires qui vont interdire de porter certains éléments si on ne fait pas partie d'une certaine société. Donc c'est vraiment pas étonnant que des enfants le ressentent même encore aujourd'hui quand ils cherchent à s'habiller comme il faut. Et parce qu'on a vraiment ces normes qui sont très claires, écrites ou pas.
Et en tant qu'historienne de la mode, le succès de ce genre de programme, parce que ça fait très longtemps qu'elle est à la télévision, Christina Cordula, et aussi le succès de ces programmes auprès du jeune public, qu'est-ce que ça vous inspire ?
L'influence des médias sur les enfants et les adolescents et leur manière de s'habiller, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toute la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense tout simplement à un magazine et une émission de radio comme Salut les copains, qui ont eu énormément d'impact sur l'adolescence et sur sa manière de s'habiller, parce qu'on cherche, et c'est ce qu'explique beaucoup ce magazine et cette émission de radio, notamment dans les années 60-70, c'est qu'il va falloir s'habiller comme ses modèles. Ses modèles, c'est notamment à ce moment-là, beaucoup les célébrités du monde de la musique, qu'on va essayer de copier, on va essayer d'avoir exactement le même style qu'elle. Donc c'est quelque chose qui n'est finalement pas nouveau.
Évidemment, la musique, c'est extrêmement central. Ça nous a fait penser à une musique et une voix, vous allez la reconnaître.
Démodé, pas démodé, vous savez. Hein. La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous, français de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque.
Voilà, une chanson, un air signé Something à la mode, et c'est une trouvaille de Philippe Baudouin. La voix, c'est celle de Karl Lagerfeld. Évidemment, historiquement, ça compte beaucoup, cette alliance mode et musique, qui sont deux grands axes aussi de définition de son identité quand on est adolescent.
Oui, c'est notamment très vrai dans les, enfin, à partir donc de des années 50, mais ça va le rester ensuite, tout simplement parce qu'on va avoir une profusion de genres musicaux et qu'on va pouvoir choisir celui dans lequel on veut s'inscrire. Et ça va aussi se faire par le vêtement. Et donc on va avoir, par exemple, dans les années 50-60, par exemple, des sortes de batailles, on va dire, entre les gens qui écoutent du rock et des gens qui écoutent d'autres musiques. En Angleterre, ça va se signifier par de grosses bagarres entre les rockers et les mods, notamment, qui sont d'autres groupes de jeunes qui ne vont pas avoir la même apparence. On va avoir le blouson en cuir, le jean, qui va devenir le vêtement de la jeunesse avant de se répandre dans toute la société. Qui va montrer qu'on est rocker, avec des coiffures aussi particulières, contrairement aux mods qui vont avoir une apparence plus travaillée, qui se veut plus propre. Et donc on cherche vraiment à se distinguer les uns des autres à ce niveau-là.
Jennifer Thieu, sur l'importance de la musique.
Je pense que la musique, comme les vêtements, sont une façon de parler, un langage, qui peuvent, si on y trouve une cohérence, former ce que certains penseurs ont appelé une sous-culture ou une tribu. Et en effet, comme vous le rappeliez, des années 60 à aujourd'hui, on a observé une multitude de tribus. Umberto Eco, en 73, il disait « Je parle à travers mes vêtements ». On parle aussi à travers sa musique, avec ses, à travers les goûts cinéphiles, à travers les livres. Et c'est un tout, je pense que être punk, c'est un tout. C'est écouter une certaine musique, aimer porter certains vêtements et avoir surtout un message particulier, contestataire vis-à-vis de la société.
Alors ça m'a rappelé une publicité de quand j'étais enfant. Moi en 83, c'était une publicité pour une marque de basket et de survêtements, punky, rocky, funky, Adidas. C'est la classe, je ne sais pas si vous en souvenez aussi. Et pour rester dans le domaine des vêtements de sport, il y a un vêtement aujourd'hui qui est très très populaire chez les enfants, de même qu'un style musical. Petit extrait, vous allez voir, il y a une marque qui est citée.
J'ai fait des sauts et je m'habille à Décathlon. T'as niqué ta caution à cause de la potion. J'pense à toi, bâtard, et là j'bois des verres d'homme. T'as le trou de balle grand comme les gorges du Verdon. Le poteau rien qui dort, il s'est fini en temps.
Bon, le réalisateur me dit on revient assez vite, ça fait peut-être suffisamment de Jules pour cette émission, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas du tout le seul rappeur à parler de cette grande enseigne d'équipement sportif qui donc commercialise plusieurs marques, mais qui sont les siennes. Il y a aussi Quechua et Kalenji, ça c'est du matériel de running. Et ces vêtements sont portés en raison de leur coût par énormément de gens et énormément d'enfants. Ces enfants qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup en survêtement, qui est devenu un petit peu leur vêtement, Jennifer Thieu.
Alors, je pense que vous reviendrez sur l'histoire du sportswear tout à l'heure, parce que c'est une très belle histoire, très intéressante, qui a à voir avec l'émancipation du corps, avec des nouvelles pratiques qui sont arrivées dans la société. En tout cas, aujourd'hui, on peut lire de différentes manières cet attrait des jeunes pour le sportswear, pour les survêtements. On peut se dire, comme Karl Lagerfeld, que c'est complètement une défaite, en fait. Qu'on a perdu le contrôle de sa vie quand on sort en jogging, qu'on ne fait plus attention à soi, qu'on a tout abandonné. En même temps, quand Mark Zuckerberg sort en jogging, quand Facebook vient d'entrer en bourse, je ne pense pas qu'il ait raté sa vie. Je pense qu'il affirme aussi une certaine idée du cool, du corps libre, du confort et aussi une forme de rébellion vis-à-vis d'une société qui voudrait peut-être corseter les corps, les maintenir dans des costumes à la papa, là où lui, le jeune moderne, n'a pas à se préoccuper de ce genre de contraintes. Alors le survêtement, il a un statut extrêmement amusant à l'école parce qu'il y a certains établissements dans lesquels il est interdit, mais c'est aussi un vêtement qui est obligatoire, par exemple à l'école élémentaire pour tous les jours où on a sport ou aussi des jours où il y a des activités particulières. Ça peut faire beaucoup de jours dans la semaine et de ce fait, 6 ans, c'est l'âge auquel on se met à porter sérieusement des survêtements un petit peu tous les jours. Ça concerne les garçons, mais aussi beaucoup de filles. Nicolas Coutan, est-ce que dans cette future exposition au MUNAE, au Musée National de l'Histoire de l'Éducation, vous allez parler du survêtement?
Alors, on parlera du survêtement. Je pense qu'on parlera du vêtement de sport, évidemment, de manière plus large, parce que le vêtement de sport, c'est pas que le survêtement. C'est aussi le short, le t-shirt, etc. Et puis, tous ces codes qui viennent du sport et qui vont très vite conquérir la mode, pas qu'enfantine, d'ailleurs. Mais à l'école, la nécessité de porter un survêtement, c'est aussi, enfin, en tout cas pour le cours de sport, c'est aussi une contrainte. Enfin, et là, du coup, le vêtement, peut-être de coolitude, enfin, de liberté, devient imposé sur certains créneaux et l'élève doit venir à l'école avec son sac à dos en plus avec éventuellement ses vêtements à l'intérieur. Donc oui, c'est quelque chose qui a une place un peu particulière. En tout cas, on n'a pas de survêtements encore dans les collections du musée. On a des shorts Adidas. On n'a pas de survêtements, donc on aimerait bien en acquérir.
Mais la fameuse réédition du survêtement Décathlon qui s'est vendu très 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 vite l'année dernière. Survêtement qui tient cette promesse, enfin moi, oui, j'ai l'impression qu'il la tient, de libérer le corps de l'adulte, de l'adolescent, mais aussi de l'enfant. C'est ce que la mode pour enfants n'arrive pas tout à fait à faire et qui a été accompli par le sportswear qui veut répondre à cette question. Sophie Lemayeux.
Oui, non, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est sans doute dans la mode enfantine qu'on cherche le plus de confort et qu'on y réfléchit de la manière la plus sérieuse, beaucoup plus que dans la mode des adultes, dans le sens où, au niveau de la conception des vêtements pour enfants dans les grandes enseignes, l'un des critères de réflexion va être ce confort et le fait qu'il faille que l'enfant doit pouvoir bouger, doit pouvoir jouer autant qu'il le souhaite. C'était le slogan de Petit Bateau, je pense, à quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on ne peut rien faire dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui est complètement pris en compte dès le départ. C'est qu'il faut que l'enfant puisse jouer et puisse bouger absolument dans tous les sens, alors qu'un adulte est beaucoup plus dans un carcan parce qu'il doit aussi se comporter d'une manière dont la société l'oblige à se comporter d'une certaine manière et ses vêtements l'aident à se comporter de cette façon.
Eh bien, c'est un support d'apprentissage, justement. On a pu interviewer Aude Le Guenec, enseignante-chercheure, directrice des études de mode à la School of Textiles and Design, j'espère que je le dis bien. C'est à Édimbourg, au Royaume-Uni. Elle est aussi anthropologue du vestimentaire.
Le vêtement d'enfant, il peut apprendre la société, le monde dans lequel on vit, en invitant les enfants à comprendre, par exemple, quels sont les moments de la journée. On ne s'habille pas de la même façon pour sortir, pour rester chez soi en pyjama ou pour aller à l'école. Donc, à travers des moments où l'enfant va se changer de tenue, il comprend, il intègre la morale sociale, la réglementation de vestimentaire, si on veut. Ensuite, il peut apprendre aussi techniquement comment manipuler son vêtement, comment l'enfiler comme il faut, les bonnes manières de faire. Comment est-ce qu'on va boutonner? Comment est-ce qu'on va enfiler une manche? Et d'ailleurs, la technique d'enfilage des manteaux qu'on leur apprend à l'école, on pose les manteaux. Donc c'est la technique papillon, je crois. On pose les manteaux au sol et on les enfile par les manches à l'envers. C'est une technique qui permet aux enfants d'intégrer ces mouvements qui sont très très spécifiques. Et puis, l'enfant va apprendre aussi à être en groupe, avec les autres, à s'identifier aux autres par un vêtement qui est de même style ou à être différent en adoptant sa propre manière de faire et son propre look.
Alors, il y a de la recherche-développement dans le secteur et des enjeux par exemple environnementaux et des enjeux de durabilité des vêtements.
Oui, de plus en plus, on va essayer de travailler sur des collections qui sont durables, écologiques, éco-responsables. Et ça s'applique bien sûr à la mode enfantine beaucoup plus qu'ailleurs, puisque les enfants grandissent vite, changent. Et on va essayer de les inviter à être responsables de ce qu'ils portent, à porter leurs vêtements plus longtemps, à avoir un vrai lien avec leurs vêtements. Donc, de plus en plus de marques intègrent la notion de durabilité et d'éco-responsabilité dans leur collection. Et ici, à la School of Textiles and Design, des étudiants qui se spécialisent dans le vêtement d'enfants vont aussi réfléchir à des solutions d'économie circulaire pour permettre aux parents d'éduquer leurs enfants à la réparation des vêtements, donc d'intégrer dans l'éducation de l'enfant ce qu'on faisait auparavant hein, à l'école, hein, d'intégrer dans leur éducation des notions de couture, raccommodage, qui sont parfois prévues dans le système de fabrication du vêtement lui-même.
Un vêtement qui serait plus durable, mais qui nous apprendrait aussi à prendre soin de lui dans l'optique de le conserver ou de le transmettre. C'est enfant, évidemment, on peut imaginer encore plus facilement transmettre le vêtement à un enfant plus jeune que soi. Et c'est un enjeu aussi, cette durabilité, vraiment du moment, on le voit. Alors là, j'ai un dossier dans le L, au secours, mon enfant surconsomme. Dans Oui Demain, consacré aux ados, arrête de polluer, avec un dossier mode pour s'habiller avec des vêtements de seconde main. Et pour vous aussi, Solène Chardronnet, des propositions pour les ados.
Oui, c'est vrai qu'on sensibilise nos lecteurs à la durabilité. On les informe, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Éthique sur étiquette, me semble-t-il, et donc ils décryptent un peu, ils expliquent aux ados à quel point c'est très générateur de coûts, de pollution, tout le travail sur le jean, hein, le jean troué, le jean blanchi, et c'est un vêtement qu'ils portent tous les jours, donc nous aussi, c'est important, voilà, de leur expliquer tout ça et les sensibiliser maintenant, bon. Inévitablement, le jean, c'est difficile d'aller contre.
On ne voit pas tellement par quoi le jean pourrait être remplacé, par le survêtement peut-être, mais on ne sait pas s'il est vraiment fabriqué dans des conditions environnementalement plus intéressantes. Mais effectivement, il y a un enjeu d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, et ce qui doit aussi passer par la mode. Et finalement, est-ce que la mode, qui s'intéresse aujourd'hui énormément aux enfants, à tous les segments, hein, du luxe comme des marques les plus populaires, puisqu'on en cite aujourd'hui Kiabi, Monoprix, suivant où on vit, on va se tourner vers telle ou telle enseigne. Je ne pourrais pas toutes les citer, Jennifer. Tu sais ça, l'avenir de la mode, se préoccuper d'environnement et d'écologie et éduquer les jeunes générations à le faire.
Oui, je pense que ce qu'on appelle la fast fashion, qui est un peu à la mode ce que le fast food est à la gastronomie, la fast fashion devient un objet de réflexion pour les jeunes eux-mêmes, les jeunes qui sont très mobilisés quand même sur le climat, on le voit tous les jours. Et je pense que les marques, si elles veulent continuer à leur parler, à parler le langage de la mode des jeunes, elles devront s'impliquer et elles devront réfléchir à la façon dont les vêtements sont faits, à la façon dont on utilise les textiles, on les vend. Enfin, je pense que c'est de plus en plus difficile, même quand on est parent, de se dire qu'on va faire fabriquer un enfant pour enfants par des enfants ailleurs, dans un autre pays. Ça devient quand même assez intenable quand on est au courant de la situation.
Et pourtant, ce problème du prix qui revient tout le temps, puisque les enfants grandissent, en tout cas jusqu'à un certain âge, usent plus vite leurs vêtements que les adultes. Et donc on est toujours tenté d'aller chercher vers le moins cher, ce qui signifie fabriquer dans de pas très bonnes conditions. Cette idée du prix et du faible coût des vêtements pour enfants, elle a toujours été là, Sophie Lemayeux.
Oui, alors après, enfin, il faut se rendre compte que c'est un phénomène qui est relativement récent et qui a seulement
la fast
quelques
fashion.
Décennies, celui de la fast fashion et de la surconsommation en général, mais en l'occurrence celle du vêtement, ne serait-ce que pour parler du début du XXe siècle ou bien même du milieu du XXe siècle, des périodes qui ne sont pas si éloignées que ça, les vêtements étaient très 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 souvent réutilisés, remployés, donnés, dans une même fratrie, mais aussi à une autre famille d'amis, des choses qu'on pratique de toute façon encore aujourd'hui, mais on avait aussi beaucoup de fabrication domestique à la maison où on allait pouvoir concevoir les vêtements de son enfant à moindre coût. Donc les questions ne se posaient pas vraiment de la même façon.
Solène Chardronnet, cette mode, la mode et les vêtements libèrent le corps mais exercent aussi une pression,
c'est vrai. Il y a comme un besoin, une quête d'excellence. L'adolescent particulièrement, je trouve, a du mal à mettre une distance, à développer son esprit critique et à se dire ces représentations sont irréalistes. Et d'ailleurs, on sait bien que toutes les images qui nous entourent sont souvent retouchées, etc. Donc je pense qu'il faut aussi noter ça. Et ça peut être parfois problématique, voire dangereux. Et certains enfants traduisent ça dans leur corps par des troubles. L'anorexie, par exemple. Dans Ramdam, on cite Madame Sénécal, qui est docteur en psychologie et qui essaye d'inciter les jeunes à trouver cette distance, voilà, vis-à-vis de tous ces codes.
D'où l'importance de la représentation de tous les corps, tous les types de corps dans les images de mode. Ça concerne les femmes, ça concerne aussi les enfants.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps. Puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés.
Toutes les tentatives ont été des échecs complets.
Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme.
Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique. Elle est fesse victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code.
Une autre place du vêtement émerge, c'est celle de la mode comme fait culturel. Alors, c'est pas tout nouveau, évidemment, mais la mode s'expose de plus en plus. Et j'en ai pour preuve le succès des expositions proposées au Musée des Arts Décoratifs. Je vais prendre les exemples les plus récents. L'exposition Dior, l'année dernière, l'exposition sur les chaussures. S'ouvre le 28 février l'exposition Harper Bazaar, premier magazine de mode. Et puis au Musée d'éducation de Rouen, une exposition sur le vêtement et l'école. C'est un fait culturel qui se montre maintenant en tant que tel et envers et pour tous les publics. Nicolas Coutan.
Oui, effectivement, c'est une évolution intéressante du monde des musées.
Avec un succès immense pour ces expositions et qui propose aussi des modules pédagogiques pour enfants, comme on le fait aujourd'hui presque dans tous les lieux d'exposition.
Je pense que la proximité physique de l'objet vêtement comporte que, éventuellement, mais ça c'est plus rare, on peut fabriquer soi-même, il joue un rôle important dans ce succès. Ceci étant, pour ce qui concerne le vêtement d'enfant, la question est un peu différente, puisque si je me fonde sur l'expérience du Musée national de l'éducation, par exemple, mais on peut aussi penser à d'autres collections de vêtements d'enfants, d'autres collections patrimoniales. Je pense au Musée de Cholet, par exemple, en Maine-et-Loire, qui est un musée de référence sur le sujet. Il y a un contexte économique bien particulier. Le vêtement d'enfant, comme on le disait à l'instant, c'est quelque chose qu'on réutilise beaucoup dans une même famille. C'est quelque chose qu'on va souvent user jusqu'à la corde. Ce qui fait qu'en fait, patrimonialiser ces objets pour en faire ensuite des expositions, pour les présenter dans des expositions, c'est pas très facile. Et quand au musée, par exemple, on a décidé de faire évoluer cette collection de vêtements d'enfants qui était relativement restreinte, on s'est posé beaucoup de questions sur la manière de faire, puisque ce sont des pièces de vêtements qui sont, en tout cas, si elles sont un peu anciennes, si elles ont un peu plus de 10-20 ans, un peu difficiles à trouver.
Elles sont difficiles à trouver et elles sont Sophie de toute façon en mauvais état, dans le sens où normalement elles ont servi, on a couru avec, on est tombé. Donc,
mais justement, ces traces d'usage en fait sont très intéressantes.
On voit le côté rapiécé.
Le côté rapiécé, on voit l'ourlet qui remonte ou qui descend et qui dit beaucoup de choses sur les pratiques familiales. On voit les tâches, que par exemple on peut se faire à l'école, si on se protège ou si on ne se protège pas. Et la manière dont le corps de l'enfant, alors si je reprends le contexte scolaire, le corps de l'enfant est sollicité. Et le vêtement, en tout cas le vêtement d'enfant ancien qu'on va collecter et exposer, il dit beaucoup de choses sur la manière dont le corps de l'enfant est sollicité dans le contexte scolaire, sur la manière dont l'enfant va bouger, quel confort il va avoir, les conséquences que ça va avoir pour sa scolarité, pour son apprentissage.
À propos de vêtements et de scolarité, un sujet revient très souvent sur le devant de la scène, c'est celui de l'uniforme. Alors, on rappelle, l'uniforme, je vais vous laisser faire, Nicolas Coutan, l'uniforme en France, historiquement.
Alors, on va tordre le coup à un mythe. L'uniforme, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais existé. Il a existé dans certains contextes.
Il existe encore dans certains contextes.
Tout à fait, voilà. Donc, dans l'enseignement privé, par exemple, puisque les établissements privés sont libres de poser les règlements qu'ils souhaitent. À certaines périodes, notamment au 19e siècle, dans certains lycées, mais ce sont des cas très particuliers. Et puis, ça on le sait moins, aujourd'hui, dans certains territoires d'outre-mer, par exemple les collèges polynésiens imposent un uniforme. Mais dans la plupart des cas, donc dans tous les autres cas, c'est-à-dire l'immense majorité des situations scolaires, l'uniforme n'a jamais été imposé.
C'était plutôt la blouse. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on en parle, souvent c'est la formule retour de l'uniforme, mais qu'est-ce qui explique ce désir d'uniforme d'une partie des Français et de notre classe politique ?
Alors, je pense qu'on confond probablement deux choses, l'uniforme et la blouse. En tout cas, on fantasme deux choses. La blouse, on le voit très bien quand on regarde les photos de classe depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'aux années 1970, début 1980. La blouse a été majoritairement utilisée, avec notamment, mais pas seulement, une fonction de protection. Mais plongez-vous dans les collections de photos de classe, par exemple, ou de photos de scènes scolaires qui sont moins posées que des photos de classe, justement, et vous verrez des situations très variables, des classes avec blouse, des classes sans blouse, des classes avec blouse, mais avec des types de blouses qui coexistent de manière très différente, des blouses unies, des blouses à carreaux, des blouses coupées de manière extrêmement variable, dans une même classe parfois des blouses et pas de blouses, et donc c'est souvent au choix de l'établissement, c'est là que se pose la question de la réglementation.
Dont on parlait en début d'émission, mais pourquoi est-ce qu'on désire que les enfants s'habillent pareil et éventuellement qu'ils portent un uniforme qu'on peut par ailleurs trouver joli, hein, ça a son charme. Et d'ailleurs, on peut porter des vestes d'uniforme pour le plaisir. Ça s'est vu aussi, Jennifer Cho.
Je pense qu'il y a une très forte envie des parents, en tout cas, de rétablir une forme d'égalité entre les enfants. Et avec cette peur, sans doute, que son enfant soit déclassé ou moqué s'il n'a pas les derniers vêtements à la mode. Le problème, c'est que la distinction, si elle ne se fait pas entre les enfants d'une même classe, elle reviendra peut-être sous la forme d'une distinction entre les filles et les garçons, si on pense à des uniformes genrés, ou
avec des jupes pour les filles
et des petits shorts pour les garçons, ou une distinction entre les écoles elles-mêmes. Donc, la rupture d'égalité, elle se fera quand même si on ne pense pas peut-être à un renouveau de l'uniforme. Alors là, je me tourne vers les spécialistes autour de moi de la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire participer les enfants, si on veut vraiment réfléchir à un uniforme, à la conception de cet uniforme, lui faire participer à la fabrication, à la rencontre avec des créateurs, avec des designers, et rendre la chose peut-être un peu pédagogique et...
Ça m'évoque un Nicolas projet qui est porté par un lycée professionnel de la région de Rouen, le lycée Élisa Lemonnier à Petit-Quevilly, avec lequel on est rentré en contact et on a demandé aux élèves de bac pro vêtements, je ne sais plus quel est l'intitulé exact de la filière, mais d'imaginer en fait un vêtement idéal pour un élève qui rentre en CP, pour un élève qui rentre en collège et pour un élève qui rentre au lycée. Et parce que c'est une classe majoritaire, essentiellement complètement féminine, toutes les élèves sont partis sur la piste de l'uniforme en fait. C'est quelque chose qui a un peu piqué notre curiosité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont choisi donc de créer des uniformes, des propositions d'uniformes avec du jean. Avec, je crois avoir vu des matériaux proches du survêtement qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec des choses qui sont complètement en rupture par rapport à l'image et je pense à une part de fantasme qu'on peut tous avoir sur cette idée d'uniforme.
Mais est-ce que l'uniforme, il n'existe pas un peu par le fait de... Oui, vous vouliez le dire, Solène Chardronnet.
Voilà. Est-ce que l'uniforme est déjà pas présent dans les cours d'école et particulièrement à l'âge du collège? Voilà, ils sont tous en sweat et en jean, on va dire, et en basket.
Avec le même sac à dos.
Avec le même sac à dos, exactement.
Uniforme et uniformité.
Et sur, peut-être en tant qu'historienne de la mode, Sophie Lemayeux, sur cette attraction de l'uniforme, c'est la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi ça plaît tellement à tant d'adultes et peut-être certains ados et enfants, cette idée d'uniforme qui appartiennent plus au monde anglais ou aux uniformes japonais qu'on connaît bien aujourd'hui, évidemment, avec les mangas et les dessins animés?
Dans l'histoire de la mode, on a beaucoup de pièces, beaucoup de vêtements qui viennent au départ d'uniformes militaires en l'occurrence, ou d'uniformes de la marine par exemple. Il y avait eu une exposition il y a un certain temps au Musée national de la marine qui s'appelait « Les marins font la mode » et qui en a parlé justement. Ce sont des vêtements très structurés, souvent, donc des vêtements masculins souvent. Il y a déjà ce pan qui est intéressant, on est sur des vêtements qui sont masculins et qui vont devenir unisexes, voire qui vont devenir complètement féminins pour certains. Et oui, au départ, ce sont des vêtements qui sont bien conçus, bien construits par des tailleurs spécialisés et donc qui ont un attrait dans leur matière, dans leur forme, qui explique qu'ils aient été aussi sollicités ensuite dans l'histoire de la mode, que ce soit aujourd'hui dans ce qu'on peut trouver dans les grandes enseignes, mais aussi dans la haute couture. Ça a été le cas chez Yves Saint-Laurent, entre beaucoup d'autres.
Et on finit avec un grand couturier dans cette émission dans laquelle nous avons tant parlé du survêtement, mais les survêtements ont déjà été présents dans des défilés qui se déroulent actuellement à Paris pour la mode femme. Merci beaucoup, beaucoup à tous les quatre. J'indique que c'est important à nos auditeurs que l'émission commencera à 17h15 la semaine prochaine et pour 6 semaines, car ce sont les conférences de Carême et elles sont diffusées sur France Culture. Nous parlerons des mères avec les écrivaines Virginie Linhart et Anne Berès, qui est aussi dramaturge et scénariste de l'excellente série Mytho, que je vous conseille chaudement et que vous pouvez essayer de regarder d'ici la semaine prochaine. En attendant, dans un instant, la leçon de choses de Sophie Bobert. Une enfance choyée, une banlieue pavillonnaire et un étrange sentiment de piège, comment s'en sortir à l'approche de l'adolescence? Souvenir doux amer avec Olivier Adam au micro de Sophie Bobert.
Mes parents sont des autodidactes qui viennent d'un milieu populaire d'une manière un peu... Ils ont eux-mêmes échappé un peu à leur déterminisme parce que ce sont des gens qui ont toujours accordé une très grande place à la littérature, à la musique, à la culture, et qui n'ont pas bénéficié d'un certain nombre d'avantages dont ils ont voulu absolument que nous, leurs enfants, leurs trois enfants, nous bénéficions. Et mon père était un grand dévoreur de fiction, enfin est un grand, toujours, parce qu'il y est énormément toujours, un grand dévoreur de fiction. Donc je crois que cet environnement où les mots, la langue étaient... dans le confinement de la maison était très important, ça m'a imprégné sans que je m'en rende compte. Et puis donc voilà, assez vite c'est devenu hein, moi très vite j'ai senti que la littérature était ma maison, quoi. Voilà.
Elle se situe là, votre part de rêve, votre part d'échappatoire, hein, lorsque vous êtes adolescent, Olivier Adam.
Oui, la musique, la littérature, le cinéma. Et puis, je suis un gros mythomane.
C'est-à-dire ?
Enfant et adolescent, je pense que avant d'avoir accès à ces mille autres vies dont parlait Flaubert, quand on écrit ou quand on lit, par la musique, par la littérature et par le cinéma, je m'y étais frayé un accès moi-même en étant un menteur pathologique. Mais pas un menteur pour cacher des conneries ou cacher des mauvaises notes ou cacher que j'allais faire des bêtises quelque part. Non, menteur parce que j'étais un spécialiste de... Je sais pas, je rentrais le soir de l'école, j'allais voir mon frère dans sa chambre et j'inventais des trucs qui s'étaient pas du tout passés pendant des heures, des relations. Ou alors j'avais un copain dans ma rue, il s'appelait Sébastien, qui était lui dans une école privée, donc on a le même âge, mais on n'était pas du tout dans les mêmes cercles, on n'avait pas aucun ami en commun. Et en fait, je lui racontais des craques totales sur telle fille avec qui j'avais eu telle conversation ou telle aventure.
Et il vous croyait ?
Ou tel garçon à qui je m'étais battu pour défendre un autre qui s'était... Que pas du tout.
Vous croyez ?
Bien sûr. Oui. Et une des angoisses après, c'était surtout que nos cercles amicaux ne se rencontrent jamais, parce que je m'inventais en permanence. Comme quoi, ça m'a suivi, parce que on peut dire que je suis un auteur un peu du quotidien quand même. C'était pas du tout. Voilà, j'inventais pas que mes parents étaient pas mes. Enfin, je sais pas. J'inventais pas des grandes aventures et tout ça. J'inventais des tas d'histoires qui ne m'était pas arrivé, mais dans le cadre de l'ici et maintenant, de l'école.
Mais qui vous embellissait.
Voilà.
Qui vous mettait en valeur, en fait.
Oui, ou qui était la preuve que ma propre vie ne me suffisait pas, que c'était trop étriqué, c'était trop petit.
Et ce qui vous permettait peut-être de vous défaire d'un sentiment de piège issu de la structure familiale, issu de la structure urbaine de ces petites villes pavillonnaires. Ce sentiment de piège, il irrigue quand même vos romans, Olivier Adam.
Mais je crois que c'était inconscient, quoi. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai pris des airs ténébreux, j'ai arrêté de manger pour être le plus transparent, maigre et pâle possible. Je m'habillais tout en noir tout le temps. J'avais toujours un peu un livre de poèmes qui dépassait de mon manteau.
C'était romantique, voilà, ça, cette posture gothique comme
romantique.
Ça.
Romantique. En plus, à ce moment-là, j'étais en grand truc sur la musique classique. Mais attendez, j'écoutais que du Rachmaninov, du Brahms. Ça fallait vraiment que ça soit. Voilà, il fallait qu'il y ait vraiment des grandes envolées de la mélancolie bien pesante.
Et ça vous rendait populaire, hein.
Ah ben non, mais l'avantage c'est qu'au lieu de... J'ai jamais été, mais l'avantage c'est que au lieu de se dire je suis pas populaire, pourquoi, on cultive sa solitude et ses tourments et sa différence, quoi.
Auprès des filles, voilà. Hein, ça ne fonctionnait pas, ça, cette image-là.
Non, ça fonctionnait plus tard. Ça fonctionnait plus tard à Paris.
Et le dernier ouvrage d'Olivier Adam, Une partie de badminton, vient de paraître chez Flammarion. Alors n'oubliez pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine à 17h15 sur France Culture ou quand vous le voulez en podcast.